Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Alexandre, bonjour. Aujourd'hui, tu lances un nouveau podcast, Regarde ailleurs, sur le voyage, qui met en avant des aventuriers, des voyageurs, des photographes au parcours atypique. Et dans ce premier épisode, on part à ta rencontre, car tu es toi-même voyageur, grand photographe et humaniste, avec une belle carrière déjà derrière toi. Donc pour commencer ce podcast, on a décidé de s'intéresser à ton parcours. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et comment tu en es arrivé là aujourd'hui?
Bonjour, merci de me donner la parole pour présenter effectivement cette émission qui s'appelle Regarde ailleurs. Donc ce sera toute une série de podcasts qui donnera la parole à des explorateurs, des voyageurs, des écrivains, des ONG. Pour parler d'une manière assez générale et globale du voyage et de l'interculturalité. Pour parler, tu m'as demandé un petit peu mon itinéraire et ce qui m'a amené à créer ce podcast. Ben, je crois qu'il faut revenir au début, au premier questionnement qu'on peut se faire quand on est souvent enfant, voire adolescent, où on se retrouve sur les bancs de l'école avec nos parents, les amis de nos parents, les profs qui posent cette question de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, vers quoi tu vas aller. Et ça met, je trouve, quand tu es enfant, une pression assez énorme, parce que comment tu peux savoir ce que tu veux faire, surtout qu'on vit dans un système où aujourd'hui tout est très complexe. Et donc souvent, on se rend compte que l'enfant, l'adolescent, va s'adapter, voire se suradapter à un système ou aux besoins de ses parents, de sa famille, pour finalement être aimé. Être aimé par ses parents, parce que ses parents aimeraient qu'il soit docteur, médecin. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je faisais partie de tous ces enfants paumés, mal dans leur peau, et sans aucune idée de ce que j'avais envie de devenir et de faire. Et loin de moi, l'idée de devenir photographe explorateur, photographe voyageur, photographe humaniste, encore moins bosser pour tout ce qui était les médias de la télévision ou de la radio, même si secrètement, en regardant la télévision enfant, en voyant des documentaires comme Ushuaïa Nature, ou en voyant des documentaires animaliers, bah, au fond de moi, c'est quelque chose qui, comme beaucoup d'entre nous, fait rêver. Et vient cette fameuse conseillère d'orientation qui est là pour te mettre dans une case. Et ça y est, c'était décidé, j'allais devenir audioprothésiste. Donc j'allais devoir mettre des appareils dans les oreilles des personnes âgées, parce que la population est vieillissante et l'organe de l'oreille vieillit également. Donc c'était un secteur lucratif avec de bons débouchés. Donc on va dire que mon environnement social et familial avait décidé que je serais audioprothésiste. Et là, on se retrouve face à une réalité qui sonne pas juste, comme une fausse note en soi. On se rend compte que, mais en fait, non, j'ai pas du tout envie d'être audioprothésiste et passer mes journées dans un bureau à parler fort pour me faire entendre des personnes âgées. J'ai d'autres rêves, j'ai un autre karma, une autre voie, et donc il fallait la trouver. Et c'est là où a commencé mon cheminement intérieur, grâce au voyage où j'ai eu à 18 ans l'occasion de... Enfin, je me suis donné l'occasion de partir en Afrique, parce que le reggae, à l'époque, j'étais un fan de reggae, j'aimais ce message reggae, ce retour à la terre, Fire Babylon, donc, qui était un petit peu en opposition au système de consommation de masse. Et je crois que je l'avais pas vraiment identifié, mais j'étais moi-même en opposition à ce système que je trouvais être complètement abusif. Si on observe l'impact qu'il engendre sur le vivant, sur nos écosystèmes. Donc voilà, le message reggae transmettait un petit peu ses valeurs, cette idée de respect de la planète, du respect des animaux, du respect des uns des autres. Ça m'a plu et j'ai envie de partir en Afrique. Et là, ça a été ma première claque monumentale où j'ai quitté la ville, ma ville, mon village pour la première fois. Et je me suis retrouvé dans un pays, c'était le Togo, avec des croyances, des valeurs, une couleur, des odeurs, des saveurs. Tout était tellement différent de ce que je pouvais connaître. Et ça m'a permis justement de me libérer du connu et de revoir complètement mes croyances, mes idées Et c'est ça qui a entamé, on va dire, mon chemin de la résilience pour essayer de savoir qui j'étais vraiment et ce que j'avais réellement envie d'être pour ne pas devenir audioprothésiste.
D'accord, donc ta première expérience de voyage en Afrique, et c'était un choix d'y aller parce que tu avais une passion pour ce continent, pour l'Afrique, ou une opportunité s'est présentée pour toi de partir là-bas?
Je pense qu'on a tous en soi des petites voix intérieures, qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Et je crois qu'une de ces voix-là me disait « Alex, mets-toi en route pour pouvoir enlever tes œillères, en fait, pour voir ce qui se passe au-delà de ton réseau, de ton cercle familial. » Et je crois que le voyage s'est présenté à moi sous, encore une fois, la forme de magazines que je pouvais lire ou de documentaires que je pouvais voir à la télévision. Et j'ai eu envie de moi aussi vivre ce rêve. Et là, on se retrouve face à deux visions, celle qui te dit, deux voix en fait, deux voix intérieures, ce petit diable qui te dit, ou plutôt cette peur, j'ai envie de dire, on va appeler le diable la peur, qui te dit, oh, c'est dangereux, n'y va pas, le paludisme. Et puis cette autre petite voix qui te dit, mais si, la vie c'est se mettre en mouvement, c'est avancer, c'est progresser. Et je crois que j'ai donné raison à cette voix qui me disait « Vas-y, essaie d'aller au-delà de tes peurs, mets-toi en mouvement. » Et donc je suis parti tout seul. Pas tout seul, c'est pas vrai. Je suis parti dans un cadre, c'était faire du volontariat. À 18 ans, je savais pas comment m'y prendre. Donc j'avais regardé les différentes structures qui permettaient de partir en tant que volontaire. Et donc je m'étais retrouvé comme ça avec un groupe d'autres jeunes à faire un chantier de 3 semaines en Afrique. Après quoi, j'avais continué mon voyage avec un copain. Mais c'était pour moi un moyen de mettre le pied à l'étrier, de me lancer. Et après, c'est vrai que l'Afrique, au retour en France, j'ai terminé mes études. J'ai su que je voulais pas être audioprothésiste et je suis devenu guide nature et accompagnateur en moyenne montagne. Et donc voilà, j'ai fini ce BTS qui a pris 2 ans de plus après l'obtention de mon bac. Et là, l'Afrique avait semé en moi une graine. Cette graine de l'ailleurs, cette graine de la rencontre, du voyage, et donc j'ai choisi, après mon BTS, de repartir. J'ai envie de repartir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir.
Et donc à ce moment-là, donc tu as tes premières expériences de voyage, dans ton goût qui s'est développé pour l'inconnu et on va dire un peu pour le lointain. Tu avais déjà commencé à faire de la photo à ce moment-là ou l'aspect photo s'est rajouté plus tard?
Très bonne question. Donc en fait, après la fin de mes études, j'avais donc cette envie de voyager encore. Parce que j'étais jeune, c'est le moment où on se rend bien compte que dans ces jeunes années, c'est là qu'il faut faire un maximum d'expériences. Et j'avais lu un bouquin qui m'avait fasciné sur ce lien des peuples premiers, des peuples racines à l'environnement, à la terre. C'était un bouquin très romancé, ça s'appelait « Le message des hommes vrais », un bouquin qui relate la vie des aborigènes en Australie, et du lien des aborigènes à la terre et cette connexion qu'ils peuvent avoir avec les écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Et donc je me suis dit « Waouh, je veux rencontrer ces hommes, je veux être en lien avec les aborigènes, je veux leur passer du temps avec eux ». Ça me faisait vraiment rêver, mais j'avais pas d'argent pour partir et pour voyager. J'avais surtout une famille qui n'était pas du tout soutenante dans ses choix ou dans ses projets de vie, parce que pour elle, le voyage était une perte de temps. Il était plutôt important pour eux que je me pose rapidement avec un métier qui puisse gagner sa vie et asseoir une sorte d'illusion sécuritaire. Mais pour moi, c'est toujours pas ce qui me faisait rêver. Donc voilà, je cherchais de l'argent autrement que dans mon réseau familial. Et il y avait une bourse qui était proposée pour les jeunes, qui s'appelait le Défi Jeune. Et j'avais monté un projet. Le projet, c'était partir en Australie pour créer une conférence sur une sorte de diaporama que j'allais pouvoir après diffuser dans les écoles et dans les lycées sur le peuple aborigène et le lien des aborigènes à la nature et à la terre. Et j'avais monté ce dossier. J'ai obtenu une belle subvention qui m'a permis de partir en Australie, de m'acheter un van aménagé pour pouvoir faire le tour du pays, pour aller à la rencontre des communautés aborigènes. Et comme il y avait cette idée de partage d'expérience dans le projet que j'avais monté, je me suis acheté un appareil photo pour pouvoir faire des images, pour pouvoir partager ce voyage à mon retour en France.
Et comment s'est passée sa transition du coup de photographe amateur à photographe professionnel, parce qu'aujourd'hui tu vis de tes images, de la photo. Comment ça s'est, à quel moment tu as pu faire cette transition? Est-ce que ça a été facile? Si tu peux nous raconter un petit peu cette étape-là.
Ouais, donc c'est vrai que j'ai d'abord commencé de la photo en tant qu'amateur. C'était au moment où les premiers boîtiers numériques apparaissaient sur le marché. Et puis j'ai beaucoup aimé faire des images. J'ai trouvé ça chouette de commencer à regarder. Déjà, on pose son regard sur les choses de manière différente. On prend plus de temps pour les observer. Et on va essayer de saisir la beauté. Donc après, on va jouer avec la lumière, on va jouer avec l'angle de vue, la prise de vue. Et on essaie de sublimer tout ce qui est autour de soi. Donc que ce soit les plantes, que ce soit les paysages, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes. Et donc la photo, dans tous les voyages qui ont suivi, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, après l'Australie, je me suis retrouvé à aller vivre au Japon pendant un an. Après le Japon, je suis parti vivre au Laos pendant 2 ans. Et plein d'autres voyages se sont enchaînés. Un voyage en a amené un autre, avec toujours des missions humanitaires pour pouvoir rendre le voyage viable, mais la photo était une passion. Et je photographiais dans mon temps libre ce qui pour moi me touchait, ce qui pour moi avait une certaine forme d'esthétisme ou de beauté. Et en 2010, donc il y a une dizaine d'années, je reçois un message d'une personne qui avait vu mes images sur Internet, parce que je les publiais sur des blogs Flickr ou des comptes où on pouvait mettre en avant ces images. Et quelqu'un était tombé sur mes photos et est venu vers moi pour me dire « J'aimerais faire un bouquin avec vous. J'aime beaucoup vos images. Et faisons un livre. » Et je me souviens que je me suis senti effrayé, ou en tout cas pas légitime, parce que je dis « Bah non, je suis pas photographe. » Et la personne m'a répondu « Mais vos images sont belles, vos images plaisent. » Et je dis « Mais non, mais je suis pas photographe. » Et là, cette personne m'a permis de prendre confiance en moi et de me rendre compte que mon regard pouvait effectivement plaire à d'autres personnes que mes amis ou que mon cercle familial. Et donc petit à petit, j'ai accepté le fait que la photographie prennent une place de plus en plus importante dans ma vie, dans mes voyages, jusqu'à me créer un statut de photographe. Et effectivement, aujourd'hui, je vis complètement de la photographie grâce aux reportages, grâce aux publications dans les magazines, grâce à la vente de tirages, grâce à des commandes qui me sont passées, ou grâce à la publication de livres sur la photographie de voyage, la photographie humaniste.
Donc aujourd'hui, tu peux nous raconter un petit peu quel est le quotidien, qu'est-ce que dans photographe voyageur, comment tu remplis, on va dire, un petit peu tes journées, quels sont les types de missions qu'on te propose, comment tu arrives vraiment à vivre de cette passion. Souvent, c'est une question qui intéresse un petit peu les gens de savoir ce qu'on dit photographe voyageur. Voilà, ça fait tout de suite rêver, mais voilà, quel est un petit peu, on va dire, l'envers du décor, comment tu arrives à vivre vraiment de ce métier passion.
C'est vrai que c'est un métier passion, tu l'as très bien dit. Et c'est vrai aussi que ce genre de métier fait rêver, parce que c'est très axé sur le visuel. On communique sur des photos qui sont souvent très belles, des peuples lointains, les Zimba en Namibie, les Bushman au Botswana, les peuples des montagnes dans l'état Shan, enfin bref, on est amené à faire des rencontres incroyables. C'est une vie assez fascinante dans le sens où on est tout le temps en mouvement, en remise en question, dans la rencontre, dans une forme de liberté, dans une forme de légèreté aussi, parce qu'on part avec un petit sac. Et c'est vrai que c'est une vie qui m'a fait rêver et qui fait rêver beaucoup de monde. Et quand on me demande « Mais attends, tu vis du voyage ?», ça paraît juste incroyable, parce que la plupart des gens, on a 5 semaines de vacances par an, et on va attendre ces vacances avec impatience pour pouvoir partir en voyage ou partir en vacances. Et savoir que quelqu'un vit ça et passe plusieurs mois par an à être sur les routes du monde, soit le pouce levé dans un bateau, dans un avion, dans un bus, pour aller vivre du voyage, ça fascine. Et c'est vrai que c'est possible, j'ai envie de dire d'ailleurs à tous ceux qui m'approchent et qui me posent ces questions, comment faire, je leur réponds, ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves, et si tu rêves de pouvoir vivre de ça, mets-toi en mouvement. C'est compliqué, mais ça reste possible, parce qu'on vit dans un monde où l'image est très présente, il n'y a jamais eu autant d'images produites, mais il n'y a jamais eu autant besoin d'images. Donc après, c'est des réseaux à se faire, c'est beaucoup dans le lien, tous ces métiers-là, c'est des métiers de l'humain. Et les gens, les ONG, j'ai commencé par bosser pour des ONG qui avaient besoin de photographies sur leurs différents projets, leurs différentes missions, en lien avec le développement, l'éducation, la santé. Et petit à petit, on fait connaître son regard, on fait connaître son travail photographique dans les réseaux, sur des salons, à travers des publications, dans des magazines. Et petit à petit, les gens viennent nous chercher pour acheter ou pour aller faire des photos. Et notamment dans le secteur du tourisme aussi, il y a beaucoup besoin de visuels, donc souvent des associations de tourisme solidaire et équitable pour lesquelles j'aime bien travailler, m'approchent et me demandent des visuels pour pouvoir communiquer sur leurs différentes destinations. Donc c'est un long process, au début il ne faut pas être bien gourmand, faut simplement être passionné par ce qu'on fait et être prêt à... c'est des choix de vie. Après je sais que d'être en mouvement permanent, ça ne correspond pas à tout le monde. Aujourd'hui, je me sens un peu semi-nomade. Je passe plusieurs mois par an à l'étranger pour aller photographier, pour aller rencontrer, pour aller vivre des immersions dans des contextes culturels différents du mien.
Et est-ce que tu as également des projets, parce que voilà, c'est sûr que ça fait rêver de partir à l'étranger, photographier, comme tu disais, à l'autre bout du monde, mais tu fais aussi des projets un peu plus au niveau local, en France. Est-ce que voilà, tu as... Parce que tu complémentes également ton activité de photographe avec des activités pour la radio, avec des activités plus liées au son. Est-ce que tu peux nous présenter aussi un petit peu ça, ce qui va nous ramener après au podcast que tu lances?
Ouais, alors c'est vrai que j'ai jamais quitté la France pour fuir. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à revenir, donc j'ai trouvé mon équilibre entre partir mais aussi revenir. Et en revenant, donc il y a cette envie de continuer à vivre, faire des projets qui ont du sens, gagner de l'argent aussi, pour pouvoir des fois repartir, ou, enfin, ça fait partie des réalités auxquelles on fait tous face. Et donc, dans un de mes retours en France, je cherchais un boulot à mi-temps, pour pouvoir avoir une base ici, et puis avoir un projet qui m'occupe. Et je me suis mis à bosser dans une radio associative, une radio locale, ici basée à Colmar. Et je me souviens que la directrice de la radio m'avait dit « Mais si je te donne le micro, de quoi tu parles ? Si je te donne la possibilité de travailler avec nous dans l'équipe radio en tant qu'animateur radio, qu'est-ce que tu racontes ?» Et je lui disais « Ben, moi j'aime beaucoup le voyage, donc j'ai envie de parler de voyage. » J'ai envie de parler de voyage et j'ai commencé à faire une émission radio avec les communautés immigrées ici en France, donner la parole à tous ceux qui vivaient en France et qui venaient de l'étranger pour savoir comment se passait leur intégration, comment se passait leur vie ici dans un pays qui était différent du leur, quelles étaient les différences, comment se passait l'apprentissage d'une langue nouvelle. Donc je me suis intéressé à tous les étrangers qui vivaient en France et j'ai créé une émission autour de cette thématique de l'ailleurs et du voyage.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Et pour en revenir un petit peu au projet que tu as aujourd'hui, qui partent aussi d'une transition un petit peu de vie personnelle, j'imagine, parce que tu as une grande sensibilité à l'écologie, à la nature, alors qui fait sens, hein, quand on a beaucoup voyagé et qu'on, en fait, on prend également en photo toute la beauté de la nature, les paysages. À quel moment, toi, tu as senti cette transition personnelle où tu t'es vraiment intéressée à tout ce qui était écologie, on va dire un petit peu toutes ces alternatives? Et qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ou alors, est-ce que ça a toujours été comme ça? Parce que comme tu disais, tu as grandi en Alsace. Tu es un enfant, on va dire, des Vosges, hein, si je ne me trompe, dans la nature. Et donc, tu as fait des études également liées à la nature. Donc, tu as toujours eu cette sensibilité, j'imagine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect de ta vie?
Ouais, je pense que... Bon, allez, j'ose dire qu'on a souvent le mental qui nous détourne de notre réalité intérieure, de notre intuition. Et je pense qu'on est tous quelque part interdépendants les uns des autres, et on est tous liés ou reliés à cette planète, Gaïa qui est la déesse de la planète, hein, qui est aussi devenue le nom de mon entreprise, Gaïa Images. Et je pense qu'on fait partie du vivant, on fait partie des autres espèces animales et végétales. Et j'ai eu la chance, enfant, de grandir dans un petit hameau où la forêt était mon terrain de jeu. Donc très vite ou très tôt, j'ai passé mes journées dehors, à faire des cabanes, à vivre le sensoriel, à expérimenter mes cinq sens à travers l'environnement naturel. Ce qui fait que ça a forcément développé, enfin ça a profondément développé en moi un amour du vivant, un amour de la planète, de la Terre. Et donc quand j'ai su que je ne serais pas audioprothésiste comme on voulait que je sois, j'ai dit « je veux sauver les arbres ». Et on m'a sorti cette phrase magnifique en me disant « tu ferais mieux d'apprendre à les couper, parce que moi quand tu coupes un arbre, tu peux en faire des planches et les revendre, mais le sauver, ça ne te rapportera rien ». Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait deux logiques en fait, deux logiques possibles, mais les deux se tiennent. La logique purement économique du capitaliste a raison, l'arbre, il a une valeur si on le coupe. Mais ma logique à moi, mes valeurs à moi étaient tout autres, étaient non, pas du tout, l'arbre il est beaucoup plus beau quand il est sur pied, quand il a ses racines bien ancrées, et quand je le regarde, quand je le vois, quand je l'observe, ça a une valeur. Et donc j'ai essayé de redéfinir cette notion de la valeur, qu'est-ce qui est valeureux, qu'est-ce que c'est d'être riche, et je pense qu'on est riche de ses expériences, beaucoup plus que riche de ses possessions, et s'il y a une réalité qui est immuable, c'est qu'un jour on part tous et on n'emporte rien. Donc autant vivre des expériences qui sont le plus belles possible et qui nous fassent avancer sur le chemin intérieur de sa vie.
Dans ton activité de photographe voyage, mais également on va dire ta prise de conscience écologique, est-ce que ça a remis en cause un petit peu ton activité, ton métier, c'est vrai que il y a beaucoup l'avion, les voyages lointains, parfois pour des durées qui sont pas toujours, on va dire, cohérentes, ou très en tout cas à l'impact écologique qui peut être questionné. Est-ce que à un moment donné, ta sensibilité ton implication dans cet aspect lié à l'écologie a remis en cause ton travail?
Chaque acte on peut avoir des répercussions sur son environnement proche ou lointain. Et à chaque instant de sa vie, je pense qu'il est bon de remettre en question son activité, ses croyances et ses pensées. Aujourd'hui, on observe cette crise de sens et cette quête de sens. Beaucoup de gens font le choix de remettre plus de sens au cœur de leur vie, parce qu'on se rend souvent compte qu'on vit dans des vies déraisonnables, en fait, qui ne nous correspondent peu ou pas, et qui sont souvent dictées par des contraintes extérieures qu'on n'a pas choisies. Et quand on s'interroge sur nos choix, sur nos modes de vie, forcément, en tant que photographe, reporter et voyageur, une des réalités est celle de l'avion. Je me déplace beaucoup pour aller explorer ces contrées lointaines, et forcément, le voyageur a un impact aussi sur les populations rencontrées. Alors même si on part dans cette idée bienveillante d'être ouvert à l'inconnu, d'être dans une forme de complémentarité, dans une forme d'échange, je sais que le voyageur peut aussi, des fois, malgré lui, avoir un impact négatif sur les populations ou même sur les écosystèmes, parce qu'on est quand même dans un monde où on va consommer un avion, consommer un hôtel, consommer un repas. Voilà, après, j'ai pas envie d'être dans le flying shame, là, de comment ça s'appelle, la honte de prendre l'avion, tous ces mouvements qui émergent où on essaie de faire culpabiliser. Cette notion de la culpabilité que j'observe beaucoup, le végétarien qui va faire culpabiliser celui qui mange de la viande, le vegan qui va faire culpabiliser le végétarien, celui qui prend le vélo qui va faire culpabiliser celui qui prend la voiture. À un moment donné, je pense pas que ce soit juste. C'est à chacun de peser le pour et le contre de chacun de ses actes. Et si on a envie de prendre un avion, de prendre une voiture, de prendre un hélicoptère, de prendre son vélo, faut le faire en conscience. Simplement savoir que chaque acte a une répercussion. Même celui qui prend son vélo aura aussi acheté un vélo avec des morceaux de caoutchouc, des pièces assemblées peut-être en Chine, donc aura aussi un impact moindre que pour celui qui va prendre un avion, c'est évident. Mais voilà, chaque acte du quotidien a des impacts. Donc à nous d'essayer d'être plus en conscience dans les choix de vie, dans ce qu'on va manger, dans ce qu'on va boire, dans ce qu'on va vivre dans son métier, de ce qu'on va vivre dans ses hobbies, de ce qu'on va vivre dans son couple, dans sa famille, dans ses relations. Cette notion du sens et de conscience me paraît juste essentielle. Et donc les avions, pour répondre à ta question, oui, clairement, aujourd'hui on nous parle du réchauffement climatique, on sait que prendre un avion est quelque chose d'impactant. Donc après, encore une fois, moi je sais que j'en prendrai, j'essaie simplement de lisser dans la durée, pas partir pour une semaine, jamais, pendant mes vacances par exemple. Quand je suis en vacances, je pars jamais, quand je suis en vacances, je reste chez moi et jardine. Par contre, mon métier c'est de voyager, donc oui, je suis amené à prendre des avions et je continuerai à en prendre, même si ça a un impact, mais je sais que ce que je produis aussi en voyage, que ce soit en termes de documentaires vidéo, de réalisations photographiques ou d'émissions radio, ça apporte quelque chose aussi, de l'ordre de l'émerveillement, de l'ordre de la beauté, de l'ordre de la communication. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, et je le fais d'une manière consciente, même si bien sûr le chemin de la cohérence est un long chemin peuplé d'embûches.
Aujourd'hui, cette année 2020, elle a été fortement bouleversée avec le Covid-19 et le confinement, cette période un petit peu particulière qu'on a vécue, qui a bouleversé la planète entière, le rythme de la population mondiale. Le secteur du tourisme a évidemment été impacté, et donc toi également, dans ton activité de photographe voyageur, tu as été impacté. Comment tu as vécu un petit peu cette période de confinement, ce Covid, et puis est-ce qu'il y a une remise en question par rapport à ton travail, par rapport à tes projets, comment tu envisages la suite, puisque on est dans une période assez floue. Et donc toi, comment tu envisages un petit peu la suite?
Je crois que la plus belle des leçons que puisse apporter le Covid, c'est cette notion de lâcher prise et d'accueillir l'instant présent. Il y a un livre qui est souvent cité, c'est le bouquin d'Eckhart Tolle, Le pouvoir de l'instant présent. Et je crois que c'est vraiment la leçon de vie de ce Covid, c'est d'arriver à accepter d'accueillir les choses telles qu'elles se présentent. Et ça bouleverse évidemment le plan d'énormément de personnes. Ça impacte des familles, ça impacte des entreprises, ça impacte tous les milieux, tous les pays du monde. C'est quelque chose d'incroyable, cette crise sanitaire est quelque chose de complètement unique et mondial. Donc oui, je fais partie des gens qui sont impactés aussi dans mon activité professionnelle. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi longtemps en France, depuis 20 ans en fait. Là, ça fait maintenant plusieurs mois que je suis sur le territoire parce que je ne peux plus voyager. Donc j'en profite pour mettre en place d'autres projets, plus en lien avec la radio, plus en lien avec les mouvements citoyens ici en France. Je m'intéresse beaucoup, tu le disais, à l'écologie. Donc tout ce qui est notion d'habitat, de vivre ensemble, d'impact écologique, c'est des thématiques qui me parlent. Et donc là, je viens de terminer un tour de France avec mon van. Donc quand je suis en France, je voyage avec un van. Des écolieux, des lieux d'habitat participatif, des écovillages, des écohameaux, pour voir comment d'autres citoyens font le choix de vivre autrement, d'être plus résilient et puis de trouver une forme de cohérence avec, encore une fois, cette notion d'empreinte écologique et de consommation. Parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on repense à nos modes de vie, qu'on repense à nos modes de consommation, et pourquoi pas repenser aussi à la direction de nos vies et au métier qu'on exerce. Il y aura forcément quelque chose qui va émerger derrière, donc soyons attentifs et essayons d'être les créateurs de la nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place.
Voilà, et donc comme tu dis, ça t'a permis de faire d'autres projets, de travailler sur d'autres projets que tu n'avais peut-être pas le temps de faire entre deux voyages, et dont notamment ce podcast, Regarde ailleurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce podcast? Quelle est l'intention que tu mets derrière en le lançant aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Qui sont les personnes que tu as interviewées? Dans quel contexte? Pourquoi tu as eu ce souhait aujourd'hui de le partager sur une plateforme de grande écoute, on va dire, pour que tout le monde puisse en profiter? Et puis si tu peux nous présenter un petit peu ce podcast pour nous donner envie d'écouter la suite.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc ça fait vraiment plusieurs années que je voyage sur les routes du monde, notamment en Asie, en Afrique. Et d'abord avec un appareil photo et puis ensuite avec un micro. Je trouvais que c'était intéressant de donner la parole aux gens que je rencontrais. Parce que le voyage, je pense qu'on fait partie des privilégiés qui ont la possibilité d'aller à la rencontre de certaines populations qui, elles, ne peuvent pas se déplacer parce que pas de pouvoir d'achat, parce que pas de passeport qui leur permet de sortir de leurs frontières. Et donc, dans cette envie de partage, je trouvais que le micro était un outil très intéressant pour donner la parole aux ONG que je rencontrais sur le terrain, pour donner la parole aux expatriés que je rencontrais en Afrique et en Asie, pour donner la parole aux voyageurs et qui vivent des fois des réalités folles. Et donc, j'ai commencé à créer cette émission, Regarde ailleurs, et à me déplacer aussi en France sur des festivals, les festivals du voyage, pour donner la parole à des écrivains voyageurs, des réalisateurs voyageurs, des photographes voyageurs, ou tous les gens qui sont un peu comme moi dans ce mouvement du voyage et cette envie de se remettre en question, de s'ouvrir, de découvrir, d'apprendre à travers les rencontres qu'on peut faire sur nos chemins et sur nos parcours. Et je pense que le micro... Un enfant me disait « je préfère la radio que la télévision parce que les images sont plus belles ». Et je trouve que c'est intéressant avec le son, cette dimension sonore, on peut soi-même se créer la dimension visuelle à travers les expériences de vie des uns et des autres. Et je pense qu'une expérience vécue mérite d'être partagée et peut inspirer d'autres personnes. On a tous été un jour face à une émission télé, face à un livre, face à une citation, face à une émission radio, à entendre ou à lire quelque chose qui nous a interpellé et qui peut-être aura pu réorienter ou orienter un petit peu notre chemin de vie. Donc la radio, l'émission Regarde ailleurs, c'est ça aussi, c'est donner la parole à des gens qui ont vécu des choses intéressantes, des choses fortes et qui puissent, à travers cette émission, le partager pour donner envie à d'autres personnes de se mettre en mouvement ou pour simplement inspirer d'autres personnes qui pourront écouter cette émission Regarde ailleurs.
Super, bah merci beaucoup Alexandre pour cette présentation, pour cette rencontre aussi avec toi, cet échange. Et on te retrouve dès la semaine prochaine, de l'autre côté du micro, puisque c'est toi qui prendras le rôle de l'intervieweur pour ce podcast. Voilà, mais en tout cas, ravie d'en avoir appris plus sur toi et cette présentation. Un dernier mot pour la fin, une conclusion ?
On va citer des citations inspirantes, donc celles qui m'ont le plus inspiré, c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, ou alors ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Voilà, donc c'est peut-être ça le mot de la fin, c'est allons-y, osons affronter nos peurs, et osons réaliser nos rêves, et repensons nos modes de vie, et essayons de remettre plus de sens dans ce qui nous anime.
Et regardons ailleurs,
élargir sa vision sur soi, élargir sa vision sur le monde. Regarde ailleurs.
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 Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.